France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'affaire Judas Priest ou le procès du heavy metal. Dans l'Amérique flamboyante des années 80, il n'y a pas de place pour les perdants ou les ratés. C'est comme ça. À une époque où seul compte la réussite sociale et la taille de son compte en banque, les losers et laissés pour compte de la société sont invisibles, comme la poussière que l'on cache sous le tapis. Et lorsque deux jeunes adultes désœuvrés décident de mettre fin à leur jour, hors de question de regarder le problème droit dans les yeux. Non, face à l'inconcevable, à l'insurmontable, les parents s'en prennent plutôt à la musique que leur fils écoutait ce soir-là. Oui, pour eux, le groupe Judas Priest a glissé dans ses morceaux des incitations au suicide, des messages subliminaux à l'intention de son public. Ah bon, le heavy metal corrompt la jeunesse. En 1990, ce procès fait couler beaucoup d'encre, car au-delà des poursuites intentées à un genre musical, se dessine en filigrane l'affrontement entre deux Amériques, la puritaine et la libertaire. Notre invité aujourd'hui, Olivier Badin, journaliste indépendant, spécialiste de musique et notamment heavy. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Olivier Badin, qui est donc aussi notre invité. Coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Frédéric Milano.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
You place your left hand on the Bible and raise your right hand and repeat after me. I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
That I will faithfully execute the office of President of the United States.
That I will faithfully execute the office of President of the United States.
So help you God.
So help me God.
20 janvier 1981, élu à la fin de l'année précédente, le nouveau président américain, Ronald Reagan, prête serment. Sous la houlette de l'ancien gouverneur de la Californie et ex-acteur de seconde zone, le libéralisme triomphe aux États-Unis. Oubliez les années 70 contestataires, la guerre du Vietnam, les émeutes raciales. Les républicains gouvernent le pays fidèles à leurs valeurs. Leur rêve américain exalte alors la réussite matérielle. La société de consommation est à son apogée. Le succès s'affiche à travers la taille des buildings et la longueur des limousines. Les jeunes loups de la finance et les promoteurs immobiliers, à l'instar d'un certain Donald Trump, font figure de modèle. Parallèlement, MTV, la chaîne musicale du câble créée en 1981, prospère. Très populaire auprès des jeunes, elle diffuse des vidéoclips clinquants à longueur de journée et le heavy metal s'y taille une place de choix. Alors que leurs prédécesseurs chantaient les ravages de la guerre ou un besoin viscéral de se différencier, une décennie plus tard, le heavy metal se prête au jeu et se fond dans le moule d'une époque hédoniste. À quelques jours de la nouvelle année 1986, il ne faut presque plus parler de heavy metal, mais de hair metal. Hair pour cheveux en anglais, en référence aux permanentes stratosphériques arborées par nombre de ces musiciens, un détail capillaire qui en dit long sur leur état d'esprit. La nouvelle capitale de cette scène musicale, c'est Los Angeles. La côte ouest, ce n'est pas innocent non plus. Là, sous le soleil de la Californie, où les lettres d'Hollywood s'étalent en grand en haut des collines tel un memento de la suprématie du divertissement sur le monde, des groupes comme Motley Crue, Rats ou encore Poison distillent la bonne parole. Et leur message se résume à quelques thèmes. Argent, plaisir, alcool, fête. Dans cette décennie tape à l'œil, maquillés, arborant des tenues clinquantes devant une foule en délire sur fond d'effets pyrotechniques, les musiciens de hair metal sont des sortes de Superman des temps modernes. Les années 80 dans toute leur splendeur.
Faut pas te gourer, je te parle pas de gens qui gagnent dans l'année 400 000 dollars à Wall Street et qui sont pas trop mal logés, qui voyagent en première classe, je te parle de liquide. Être bourré de fric, assez pour avoir ton jet. Oui, assez pour que tu profites de ta vie. 50 ou 100 millions de dollars, buddy. Un pro. Ou un zéro.
Oui, mais voilà. Pendant que Wall Street devient la mecque des temps modernes et que les stars d'Hollywood enchaînent les blockbusters, toute une partie de la gigantesque population américaine est laissée pour compte. Cette Amérique d'en bas, comme aurait pu dire un ancien premier ministre français, c'est celle de ces ouvriers qui vivent chichement dans des lotissements sans fin, quelque part au fond d'une petite ville du Kansas ou de l'Iowa. Des familles de classe moyenne, souvent peu éduquées, et dont la vie semble déjà toute tracée avant d'avoir commencé. Des familles où les enfants adolescents trompent l'ennui comme ils le peuvent, rêvant d'une échappatoire que souvent ils ne trouveront pas. Eh bien, c'est à ces laissés pour compte, ces losers, que le heavy metal de l'époque promet une vie meilleure, synonyme de réussite, c'est-à-dire dans leur esprit, d'argent facile et de conquêtes amoureuses. Ils adoptent ce genre, dénigré par les élites et les critiques rock qui pour autant leur ressemblent. Deux de ces déçus de la vie habitent Reno, dans le Nevada. Deux jeunes hommes, du nom de James Swain et Ray Belknap, amis depuis le lycée. En cette avant-veille de Noël 85, les deux désœuvrés tentent de tromper l'ennui, comme pratiquement tous les soirs. Ils sont issus de cette classe moyenne, peuplant à perte de vue des lotissements partout dans le pays. Des banlieues qui se ressemblent toutes, où la vie semble tout tracé, aussi rectiligne que des allées de garage bordant chacun de ces petits pavillons modestes. Passeport pour l'ennui. Sur les photos, ils semblent entre deux âges avec leurs cheveux mi-longs et leurs petites moustaches juvéniles. Pas encore tout à fait sortis de l'adolescence, pas encore adultes. Chacun a trouvé en l'autre un compagnon d'infortune. Pour James, c'est une vie coincée entre un père alcoolique et joueur et une mère rigoriste religieuse qui l'a amené, après avoir expérimenté toutes les drogues possibles et imaginables, en cure de désintoxication. Quant à Ray, qui racontera plus tard avoir été violé par l'un de ses beaux-pères durant l'enfance, il est fasciné par les armes à feu et il a des ennuis avec la justice. D'ailleurs, il doit être entendu après avoir tué gratuitement un animal à l'aide d'un pistolet à fléchette. Tout en fumant de la marijuana et en buvant des bières, les deux amis ruminent des idées noires. Mal dans leur peau, très mal, ils rebâchent leur défaite, entretiennent leur exécration de la vie et parlent de leurs parents détestés. La bande-son de cette soirée, Stained Glass, un album de heavy metal devenu un classique du genre. Sorti en 1978, il est signé par l'un de leurs groupes favoris, Judas Priest. Puis la nuit avance, et plus elle avance, plus la conversation vire au morbide. Jusqu'à la conclusion, inéluctable, fatale, en finir, une bonne fois pour toutes. C'est Lady James n'en est pas à son coup d'essai. Non, il a déjà tenté à deux reprises de se suicider. Ray peut lui fournir toutes les armes nécessaires à la réussite du plan. Alors c'est décidé, ce soir, ils mourront. Ensemble. Armés d'un fusil de chasse et de quelques balles, ils se rendent sur un terrain de jeu déserté, seuls, au milieu de la nuit, pour en finir. Ray décide de partir en premier. Alors il s'assoit sur un tourniquet rouillé, plante son fusil sous sa gorge, regarde son ami et lâche un désabusé. J'ai bien foutu ma vie en l'air. Et il appuie sur la détente. Il meurt sur le coup. Comme il lui a promis, James ramasse l'arme tombée à côté du cadavre de son ami et tente de se supprimer à son tour. Mais son sort est encore plus dramatique que celui de son ami, car il se rate et il est affreusement blessé. Deux vies détruites et pour les familles, un seul coupable, désigné. Le seul capable de pousser ces deux adolescents à se donner la mort, le groupe Judas Priest et à travers lui, le heavy metal.
Je viens visiter cet endroit souvent. Et je parle à Ray. Je sais qu'il est mort. Je ne m'attends pas à ce qu'il me réponde. Mais je lui dis encore ce que j'ai sur le cœur. J'aimerais pouvoir dire ouvertement que certaines personnes sont des meurtriers. Pour moi, ils ont tué Ray.
Cette voix brisée, c'est celle de James Vance, défiguré. Malgré de longues opérations de chirurgie esthétique, son visage est détruit, presque comme ses gueules cassées de la Première Guerre mondiale. Sa vie, elle aussi, est brisée, évidemment. et il en veut à ces meurtriers qu'il ne nomme même pas. Mais pour lui, pas de doute, les responsables, ce sont donc les musiciens de Judas Priest. Ce drame intervient dans un contexte bien particulier, au sein de ce pays continent que sont les États-Unis, dont l'opulence revendiquée cache en vérité un puritanisme de plus en plus envahissant.
Dieu protège l'Amérique, la famille est un noyau idéal, les enfants doivent obéir et même pourquoi pas prier à l'école, les assassins doivent passer à la chaise électrique, les Américains doivent garder la confiance et l'optimisme de leurs aïeux, car la société américaine est la meilleure du monde. Ce ne sont pas les hommes politiques qui font passer leurs messages et leurs idées dans l'opinion, c'est exactement le contraire. C'est l'opinion qui guide en gros les députés, les sénateurs ou les présidents. Par exemple, si Reagan a été élu, c'est parce qu'il a été porté par une vague conservatrice, ce n'est pas lui qui a créé cette vague. Prenons l'exemple de la jeunesse et des adultes, disons entre 18 et 44 ans, à peu près la moitié de la population. Ce sont eux qui sont les plus favorables aux idées conservatrices. Il serait faux de croire que la jeunesse, par exemple entre 18 et 22 ans, est séduite par des options libérales. L'Amérique donne dans le puritanisme les valeurs morales, la religion, et à ce sujet, il ne faut pas oublier que les États-Unis sont peut-être le pays le plus religieux du monde. Tout le monde là-bas appartient à une église et participe activement à cette vie de l'église.
Oui, l'Amérique de Ronald Reagan, c'est le retour de l'Amérique de l'ordre moral et religieux. Il faut retenir deux déclarations majeures de ce président-là. « America is back », genre, après cette chiffre molle de Carter qui s'est fait balader par les Iraniens fanatiques au pouvoir à Téhéran, on va montrer nos muscles. Et puis cette phrase, « Le problème, c'est l'État », qui annonçait la dictature triomphante de l'ultralibéralisme plus forte que jamais aujourd'hui. Et enfin, cet ordre moral qui permet à des télé-évangélistes comme Jimmy Swaggart ou Jerry Falwell de répandre la bonne parole par l'intermédiaire de shows télévisuels incantatoires regardés par des millions d'Américains fanatisés. Pour eux, même si le dieu dollar veille, Satan est toujours là pour nous dévier du droit chemin. Ses armes favorites? Les jeux de rôle, les jeux vidéo, Hollywood et le heavy metal, bien sûr. En 1985, sous l'impulsion de Tipper Gore, femme d'Al Gore, futur candidat à la présidence des États-Unis, pourtant démocrate, et crée le Parents Music Resource Center, un groupe de lobbying censé dénoncer l'apologie du sexe, de la drogue et de l'alcool dans la musique contemporaine. Il dresse d'abord la liste de 15 chansons à interdire. Coincé entre Madonna et Prince, on retrouve près d'une dizaine de titres de heavy metal. Le comité milite et obtient aussi la position d'un bandeau soi-disant préventif sur les disques considérés comme offensants auprès d'une commission hautement médiatisée devant le Congrès, un tribunal de la moralité, devant lequel défilent Frank Zappa, Joe Ramone, mais aussi Dee Snider du groupe de heavy metal Twist Sister, histoire de défendre la liberté d'expression.
Je savais qu'il me sous-estimait. Il me voyait comme une rockstar un peu bête qui allait passer pour un idiot et qui ferait avancer leur cause. Il ne pensait même pas que je pouvais construire une phrase ou même parler anglais couramment. Donc je me suis pointé avec mes vêtements, ma veste aux manches coupées, mon jean, mes bottes et mes cheveux longs lâchés. Hors de question de m'habiller proprement pour qui que ce soit. Je suis une raclure et j'en suis fier. J'ai ensuite sorti de ma poche arrière le discours sur lequel j'avais bossé pendant des semaines, comme si je dégainais une arme nucléaire, et j'ai bien pris le temps de déplier et de le poser sur la table, comme un gentil élève devant son professeur. Ils se sont dit d'abord, voici un doux agneau amené à l'abattoir. Et là, j' ai commencé à parler. Étant la seule personne directement visée par les accusations du soi-disant responsable PMRC, j'aimerais profiter de cette occasion pour parler sur une note plus personnelle et montrer combien le concept d'interprétation des paroles est injuste.
Deux camps s'affrontent ce jour-là au Sénat américain, et tout cela au nom de la vertu et de la sauvegarde de la jeunesse américaine, avec déjà au centre des débats de potentiels messages cachés.
Ils disaient que notre chanson Under the Blade parlait de sadomasochisme et bondage, alors qu'elle parlait de l'opération de la gorge de mon guitariste.
Mais de mon point de vue, il n'est pas concevable que l'on ne puisse pas aborder le vrai sujet de la chanson. vu que jamais les mots « hôpital » ou « chirurgie » ne sont mentionnés.
Non, mais j'ai toujours dit que nos chansons permettaient aux auditeurs de laisser leur propre imagination en choisir l'interprétation, en projetant leurs propres expériences et rêves dans les paroles. Les gens peuvent l'interpréter comme ils le veulent. Madame Gore était à la recherche de sadomasochisme et de bondage, et elle les a trouvés. Celui qui cherchait des références chirurgicales les aurait trouvées aussi.
Parmi les auteurs de ces 15 chansons censées pervertir la jeunesse américaine se trouve Judas Priest, groupe en activité depuis 1969 et qui fait donc figure de vétéran. Première particularité, le groupe est anglais et non pas américain, originaire de Birmingham comme leurs copains de Black Sabbath. Mais surtout, avant de devenir une machine heavy metal prête à tout écraser sur son passage, ces musiciens-là ont pas mal tâtonné, jouant d'abord une sorte de hard rock vaguement progressif. Lors de l'une de leurs premières apparitions télé à la BBC en 1974, ils ressemblent d'ailleurs encore à des hippies, pas tout à fait sûrs d'eux-mêmes. Mais à partir de leur quatrième album, paru en 1978, titré Stained Glass, ils durcissent le ton et abordent des thématiques plus sombres, plus réalistes. Mais surtout, sous l'impulsion de leur chanteur Rob Halford, ils adoptent alors ce qui deviendra le look heavy metal, plein de cuirs et de clous à la croisée des chemins entre bikers et SM. Cela ne les empêche pas de sentir le vent tourner. À la fin des années 70, c'est l'hécatombe autour d'eux. Après Deep Purple, c'est au tour de Led Zeppelin de se séparer suite à la mort de son batteur John Bonham, étouffé par son propre vomi après avoir avalé 40 shots de vodka. Black Sabbath, lui, se retrouve au creux de la vague après s'être séparé de son chanteur Ozzy Osbourne, disparu dans un nuage de cocaïne. Le hard rock de papa a vécu et il est temps d'adopter un nouveau son, plus polissé, plus taillé pour les grandes salles et surtout plus marketé pour le public américain à 8 de décibels. Judas Priest négocie ce virage difficile avec brio. Sa cible privilégiée, le jeune public américain. Le moyen pour les atteindre, un son désormais plus polissé, on l'a dit, et plus calibré pour leur permettre de passer en boucle sur toutes les puissantes radios outre-Atlantique, le tout cimenté par des tournées incessantes. Et ça marche. Par exemple, rien qu'au US Festival à San Bernardino, le 29 mai 1983, Judas Priest se produit devant près de 700 000 personnes. Au milieu de cette décennie, le groupe est tout simplement l'un des plus populaires de la planète, et particulièrement aux États-Unis. Mais ce succès, et à travers lui le succès du heavy metal en général, ne plaît pas à tout le monde. Voilà pour le contexte. Explosif. Alors, lorsque James Vance décide d'écrire à la mère de son ami pour lui dire que, selon lui, c'est l'influence combinée de l'alcool et de la musique métal en général, et de Judas Priest en particulier, qui les a poussés à croire que la réponse à la vie était la mort, l'occasion est trop belle pour certains de crucifier ces derniers en public.
Yeah.
Aujourd'hui, l'histoire de Judas Priest.
France Inter, Affaires sensibles.
Les messages subliminaux et rock, c'est déjà une vieille histoire. En 1966, Rain des Beatles, le plus grand groupe du XXe siècle, est le premier morceau de l'histoire musicale où une partie de la bande est enregistrée à l'envers. Le message, s'il en est un couplet supplémentaire, pas une incitation au suicide. Moins drôle, Led Zeppelin ou Queen furent, eux, accusés d'avoir utilisé la même technique pour encourager la consommation de drogue ou le satanisme. Mais sans bien sûr que jamais personne n'ait réussi à prouver quoi que ce soit, comme d'habitude. Mais pour les familles de James et de Ray, c'est sûr, c'est ce qui a poussé leur fils à commettre l'irréparable. Selon leurs avocats, le groupe a inséré des messages subliminaux dans l'une des chansons de l'album Stained Glass, écoutée en boucle le soir du drame. Plus précisément, dans la chanson « Better Than You, Better Than Me », où, d'après eux, on pourrait distinctement entendre les mots « Do it », « Fais-le » en anglais, si le disque vinyle est joué à l'envers. L'ironie de l'histoire, c'est que « Better By You, Better Than Me » n'est même pas une chanson originale de Judas Priest, mais une reprise d'un obscur groupe de rock progressif des années 60, Spooky Truth. L'histoire est facétieuse. Mais l'humeur est beaucoup plus sérieuse et sombre en ce mois de juillet 1990. Le 16 s'ouvre dans la petite ville de Washoe le procès intenté par les familles de James et de Ray, réclamant chacune plusieurs millions de dollars de dommages et d'intérêts. Dehors, des fans sont là pour défendre leur groupe préféré, portant pancartes, mais aussi radiocassettes portatives diffusant leurs chansons les plus connues. Les quatre membres du groupe arrivent, habillés sobrement. Le chanteur Rob Halford porte une chemise noire, une veste et signe à la sauvette quelques autographes, mais sans s'attarder. Une fois dans la salle, ils doivent faire face à leurs accusateurs. Si le père de James Vance s'est installé au fond, sa mère est là, au premier rang, le visage fermé et entouré d'avocats et d'experts qui vont défiler les uns après les autres à la barre. L'ambiance est très tendue et tout le monde sait qu'il y a beaucoup en jeu. Et beaucoup plus en jeu que deux familles endeuillées, et aucun camp ne compte en retenir ses coups. Alors très vite, le ton est donné. James Vance, qui a survécu au drame, n'est même plus là pour faire face à ceux qui l'accusent de l'avoir poussé à tenter de se suicider. Atrocement défiguré, obligé de suivre à vie un traitement très lourd, le rendant totalement indépendant de ses parents qu'il tentait désespérément de fuir avant de finir hospitalisé pour dépression, et mort d'une overdose de médicaments en 88, 2 ans avant, libéré de ses souffrances. Comme le lui permet la justice américaine, Judas Priest avait le choix pour trancher le litige entre un jury populaire ou un juge professionnel. Mais l'aspect sensationnel et l'émotion suscitée par ce double suicide le poussent à choisir un juge. Dans le fauteuil, on retrouve donc l'honorable Jerry K. Whitehead. En 1986, c'est déjà lui qui avait mené le procès intenté à Ozzy Osbourne, également accusé par des parents d'être responsable du suicide de leur fils, acculé, selon eux, à commettre l'irréparable à cause de l'une de ses chansons. L'ancien chanteur de Black Sabbath avait alors été acquitté au nom du Premier Amendement, ce fameux texte protégeant la liberté d'expression aux États-Unis. Mais l'avocat des familles tente de contourner l'obstacle en choisissant une approche, disons, plus technique. Non seulement il accuse le groupe d'avoir dissimulé des messages subliminaux, malveillants, mais il le définit alors comme un vice caché. En termes juridiques, il s'appuie sur la notion de mise sur le marché de produits défectueux causant des dommages aux utilisateurs. L'un des avocats de la partie adverse rappelle que sur scène, les musiciens portent du cuir d'où pendent des chaînes et des menottes, alors que Rob Halford utilise un fouet comme accessoire de scène, preuve selon lui de leurs intentions sataniques. Et le concert compare leur concert à des séances d'hypnose de masse.
J'ai entendu les mots « fais-le », mais je n'ai pas compris le contexte ou pourquoi ils étaient là.
C'est très difficile car c'est un niveau subliminal.
Le témoignage d'aujourd'hui résume vraiment le cœur de l'affaire, c'est-à-dire les potentiels messages subliminaux ou cachés dans la musique de Judas Priest, et particulièrement dans l'album Stained Glass. Les parties civiles sont arrivées aujourd'hui avec des ordinateurs et des équipements de haute technologie pour prouver leur théorie.
Ne reculant devant rien, les experts convoqués par le procureur se mettent à diffuser à plein volume divers extraits de l'album Stained Glass à l'envers. Un disque bourré selon eux de messages comme « Chante mon esprit maléfique » ou « J'emmerde le Seigneur, je vous emmerde tous ». L'un de ces experts, sans aucune base scientifique, affirme qu'il y a aussi des messages sur les billets de banque dans des catalogues de vente par correspondance. Absurde. Surtout que, pour la majorité du public présent dans la salle, cette écoute révèle surtout un charabia sans queue ni tête, alors qu'un journaliste ironise, lui, en comparant ses soi-disant preuves au son d'un dauphin maléfique en train de chanter. Better by you, better than me. You can
say what I only can see. Thank you. Merci. Ce « yeah » que vous faites à la fin, est-ce l'exaltation de votre souffle ?
Yes. Oui.
Est-ce une partie normale de votre façon de chanter ?
J'ai toujours chanté de cette façon, c'est mon style.
Y a-t-il des fêlés subliminaux dans la chanson « Better than you, better than me » ?
Absolument pas.
La contre-attaque ne se fait pas attendre. Les vies de famille des Evans et des Belknap sont disséquées en public. Leur côté dysfonctionnel s'étale alors au grand jour. Le père alcoolique de James, joueur maladif, n'hésitait pas à dilapider son salaire mensuel. La sœur de Ray admet qu'elle n'a jamais écouté de heavy metal de sa vie avant ce procès. Mais cela ne l'empêche pas, elle aussi, de faire deux tentatives de suicide. Lors de sa cure de désintoxication, James a dû remplir une grille d'évaluation. À la question « Au cours des cinq dernières années, combien de temps as-tu été sobre ?», le jeune adulte répond « 2 semaines ». À la question « Quelle est ton activité favorite ?», il écrit « Prendre de la drogue ». Prenant au mot ses accusateurs, le guitariste Glenn Timpton décide d'enregistrer l'intégralité de l'album Stained Glass à l'envers et de faire écouter à la cour le résultat. Le public a alors l'impression d'entendre distinctement des phrases aussi farfelues que « Maman, ma chaise est cassée » ou « Donnez-moi un bonbon à la menthe ». Preuve que ces soi-disant messages sont bien souvent de joyeux accidents. Rob Halford, lui, se prétend avec un flegme typiquement britannique que s'il avait vraiment eu le pouvoir d'imposer sa volonté à ses fans via des messages cachés, la chose la plus sensée à faire aurait dû leur intimer l'ordre d'acheter encore plus de disques, pas de se supprimer. Un trait d'humour qui suscite quelques rires dans l'assemblée, mais qui n'arrache pas un sourire à l'impassible juge, enfermé dans son silence pendant tous les débats.
Dans un document de 108 pages remis aux parties civiles présentes ce jour-là, le juge Whitehead conclut que Judas Priest et son label CBS ne sont pas responsables d'avoir causé la mort de James Vance et Raymond Belknap. Les mots « fais-le » sont présents plusieurs fois sur l'album Stained Glass et sont bien subliminaux. Mais c'est le résultat d'une combinaison fortuite de sons et ne sont pas intentionnels. Il n'y a aucune preuve de message caché et aucune preuve scientifique que ces derniers puissent être compris ou même influencer le comportement.
Le 24 août 90, après 3 semaines d'audience rocambolesque, le juge Whitehead rend son verdict. Judas Priest est acquitté. Bien que la tactique de la défense visait à prouver que le contexte familial hautement dysfonctionnel était en grande partie responsable du drame, il rappelle que c'est avant tout le groupe qui était dans le box des accusés. Et il reconnaît l'existence de messages subliminaux, mais ces derniers seraient accidentels, et donc dénués d'éléments intentionnels. Reste l'influence des 10 messages sur James et Ray. La réponse sur ce point de Whitehead est, disons, plus nuancée, estimant ne pas avoir assez d'éléments lui prouvant que le groupe aurait poussé les deux jeunes hommes au suicide. C'est donc une victoire à la Pyrrhus. Dans son autobiographie parue en 2020, Confess, Rob Halford avoue que le jugement lui a toujours laissé un goût amer dans la bouche, le juge ayant bien souligné les avoir innocentés à défaut de preuves substantielles de leur culpabilité, laissant ainsi planer un doute jusqu'à ce jour. Quant aux familles endeuillées, elles font toutes les deux appel, mais il est rejeté. Le 3 septembre 90, 10 jours seulement après ce jugement, Judas Priest sort son 13e album, Painkiller, qui se vendra à plus de 2 millions d'exemplaires dans le monde. 2 ans plus tard, suite à des tensions internes, Rob Halford quitte le groupe pour suivre une carrière solo. Et après des années à le cacher, il fait son coming out en 98 et devient le premier personnage de premier plan de la scène metal à ainsi assumer son homosexualité, expliquant qu'il en avait assez de se cacher et du mal-être que cela suscitait avec les excès qui suivaient. Peut-être que si James Vance et Ray Belknap avaient réussi à faire face à leurs propres démons, s'ils avaient su eux aussi parler du mal qui les rongeait de l'intérieur, peut-être auraient-ils pu sauver leur vie plutôt que d'y mettre fin. Ou pas. Cette question restera sans réponse. Mais au milieu de leur désert affectif, la musique en général et le groupe Judas Priest, avec ses chansons exaltantes et à l'allure de super-héros en particulier, faisaient partie de leur rare source de joie. Et pourtant, en leur nom, leurs familles ont tenté de leur faire porter la responsabilité du drame. Un bouc émissaire en somme. Mais ce qui était alors en jeu ici n'était pas le destin tragique de deux losers de l'Amérique profonde, mais bien la peur de certains adultes de voir leur jeunesse leur échapper. Déjà au 4e siècle avant notre ère, le philosophe Socrate avait été accusé puis reconnu coupable de corrompre la jeunesse, un crime qu'il avait payé de sa vie. Parce que de tout temps, les libres penseurs et les artistes ont été mis à l'index et accusés de tous les maux, à tort bien sûr. C'était le cas il y a plus de 2000 ans, cela s'est reproduit en 1990 et le phénomène ne va pas s'arrêter. Judas Priest a été innocenté, certes, mais il est encore aujourd'hui certain qu'ils ne sont pas d'accord avec ce verdict et ils n'ont pas fini de faire entendre leur voix. We'll be right back.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Le heavy metal, premier épisode d'une série que nous vous proposons sur cette culture-là, dont nous allons parler avec notre invité Olivier Badin. Bonjour.
Bonjour.
Olivier Badin, vous êtes l'auteur de ce texte et vous êtes journaliste indépendant, spécialiste musique et l'un des rares spécialistes du heavy metal en France. Alors peut-être qu'avant de revenir sur le fond d'affaires, on peut faire un peu d'histoire sur ce genre musical. Comment on définit le heavy et quelle différence avec le hard rock ?
Alors le heavy metal, il y a plusieurs théories autour de sa naissance. L'une d'entre elles, ça vient des Beatles. Il y a beaucoup de choses qui viennent des
Beatles. Tout vient des Beatles.
Et plus particulièrement d'une chanson qui s'appelle Helter Skelter, qui a priori c'est une chanson que Paul McCartney a amenée en studio en disant « J'en ai marre qu'on nous traite quand même de gentils garçons qui faisons de la pop, on va leur montrer ce que c'est du rock'n'roll ». Et pourtant, la chanson elle-même, a priori, parle d'un toboggan géant. C'est ce qu'ils ont avoué après. C'est pas très heavy metal, mais le son des guitares, la lourdeur des guitares, et puis surtout le côté très exalté du chant, la batterie très lourde. D'ailleurs, à la toute fin du morceau, si vous écoutez bien, vous entendez Ringo Starr qui dit « Oh là là, j'ai
des ampoules !»« I got blasters on my fingers !»«
J'en ai partout,
voilà,
j'ai mal !»«
J'ai des ampoules sur les doigts !»
Donc là, c'est pour beaucoup de gens, c'est le premier morceau de heavy metal. Pour d'autres, c'est Steppenwolf. Born to be Wild, qui n'est pas forcément un morceau heavy metal en lui-même, mais c'est la première fois qu'on entend les mots heavy metal prononcés dans une chanson. Il parle de heavy metal thunder, mais à l'époque, le tonnerre heavy metal, mais à l'époque, il parle plus du bruit des motos. En fait, pour mettre tout le monde d'accord, on peut aller vraiment à la source même. En 1970, le premier album de Black Sabbath, la chanson Black Sabbath qui ouvre l'album, ça, pour tout le monde est d'accord.
Et la différence musicale entre le hard rock et le heavy metal, elle tient à quoi ?
Alors cette différence, c'est vrai que pendant longtemps on a confondu les deux. Pour faire simple, on pourrait dire que le hard rock vient du rock, qui vient lui-même du blues. Donc il y a vraiment une source musicale qui vient du blues. Le heavy metal, lui, laisse volontairement de côté les sonorités blues pour accentuer le côté accent mineur, les accords mineurs, pardon, et ce côté sinistre, sombre, très très lourd. C'est là où on fait vraiment la différence entre le hard rock et le heavy metal.
Alors parfois on peut les confondre pour leurs riffs qui sont lourds tous les deux.
Tout à fait, hein, c'est ça.
C'est ça qui fait la confusion.
De toute façon, le riff, ça reste pour le rock, même pour le blues, ça reste l'architecture principale. Et c'est encore plus dans les heavy metal. C'est pas pour rien que et le hard rock, c'est pas pour rien que les guitares Eros, on vient tous du hard rock. C'est la guitare qui sublimait dans tout ce qu'elle a de plus fantasque, de plus exaltante. Et donc forcément, ça passe par un son, un volume très très fort et des riffs très très forts.
Comme Guns N' Roses qui a fait le riff de Michael Jackson d'ailleurs.
C'est Slash, le guitariste Slash qui est lui.
Beat It, hein, c'est ça.
Beat It, pas tout à fait. Beat It, c'était Eddie Van Halen qui était le guitariste du groupe Van Halen, voilà, tout à fait. Et c'était Michael Jackson qui avait demandé à Eddie Van Halen de venir jouer sur Beat It. Et il a, une nouvelle fois, quelques années après, sur Black and White, il a demandé à Slash de Guns N' Roses, cette fois-ci, d'apparaître aussi bien sur la chanson que dans le clip.
Alors, on a parlé des parents du heavy metal. A-t-il des héritiers ou est-ce qu'il ne faut pas parler d'héritiers parce que le heavy metal est aussi contemporain ?
Le heavy metal est très contemporain. La différence, je dirais, aujourd'hui, c'est qu'il s'est extrêmement diversifié. Autant à toute fin des années 70, notamment lorsque cet album de Judas Priest est sorti, Stained Glass, on était vraiment une catégorie bien précise, une sonorité bien précise. Maintenant, le heavy metal se décline sous plein de formes différentes, des sonorités différentes, plus ou moins avec des ajouts folk, symphoniques ou au contraire plus rapides, plus brutales. En fait, maintenant, le heavy metal a engendré quantité de sous-familles et il y en a constamment de nouvelles qui apparaissent.
Ça critique un peu. C'est un syncrétisme musical.
Ah oui, aujourd'hui. Complètement. Ça, maintenant, on pourrait dire que le heavy metal. D'ailleurs, on parle maintenant de métal. On parle plus vraiment de heavy metal. On parle de métal en tant que non seulement de genre musical, mais de mentalité, de famille musicale, avec un certain nombre de valeurs, de looks et d'affinités, mais qui abrite en fait plein de choses différentes.
Alors, est-ce que le procès dont on a parlé, l'affaire, est une date importante, un marqueur dans l'histoire du metal ? Alors, je ne parle pas artistique, hein, je parle des conséquences sociétales. Est-ce que c'était un marqueur et quelle trace a-t-il laissé ce procès ?
On peut dire que ça a été un marqueur parce que ce n'est pas le premier. Il y a eu plusieurs procès qui ont été intentés contre des musiciens de heavy metal, notamment Ozzy Osbourne en 1986. Mais à chaque fois, ça n'a pas abouti. Mais de tous les procès, c'est sûrement celui qui, à l'époque, a été le plus médiatisé. qui a fait le plus parler de lui. Et ce qui a beaucoup joué aussi, c'est le fait que sur les deux adolescents, il y en a un qui, était, bon, qui hélas, n'était plus en vie au moment du procès, mais qui était encore en vie 2 ans après, qui est apparu dans des talk shows. Il y a un documentaire qui a été fait sur toute l'affaire, où on voit son visage complètement détruit, qu'ils ont essayé de reconstruire avec la chirurgie esthétique, mais d'une manière très maladroite. Donc c'est un peu Elephant Man, c'est affreux à dire.
Sa vie est foutue, évidemment.
Sa vie est complètement foutue, sa diction est complètement... On le sent complètement perdu. Donc ça a beaucoup, beaucoup marqué les esprits pour ça. Et on avait vraiment, en plus, on a vraiment vu sous les caméras des télés américaines deux Amériques vraiment s'affronter, une Amérique puritaine, très religieuse, et ces musiciens de rock, de métal, qui essayaient de venir un peu en chemise, comme un costard, mais avec ses coupes de cheveux, cette terre un petit peu « je suis là, mais je ne suis pas là », et leurs fans dehors, on avait l'impression que c'était vraiment deux sociétés qui vivaient sous le même toit, mais qui n'arrivaient pas à s'entendre. Donc ça a vraiment été un procès important, parce que de son issue, si le groupe avait été condamné, ça aurait sûrement engendré d'autres poursuites.
Eh oui. Donc ça fait jurisprudence dans le bon sens, dans le sens de la liberté d'expression. En tout cas.
Voilà, dans le sens où, effectivement, là, on a... comme ça a été dit dans le texte, dans le récit, les messages subliminaux, c'est une vieille histoire du rock. Hein, ça fait
oui, et on va y revenir, parce qu'il y a d'autres exemples qui sont frappants. Par exemple, peut-être le plus dramatique, l'assassinat de Sharon Tate, le massacre dans la maison à Hollywood, dont Charles Manson et sa bande d'illuminés arrivent, massacrent tout le monde, et laissent en lettres de sang, ils ont trempé le doigt dans le sang de leurs victimes, sur les murs, Helter Skelter, Piggies et Blackbird. 3 chansons des Beatles. Donc là, il y a de quoi se poser la question. Les Beatles ont dit, évidemment, on n'y est pour rien. Est-ce que les messages subliminaux, on ne trouve dans les messages subliminaux que ce qu'on veut trouver, finalement?
Ce cas est particulièrement dramatique, hein. Ça a marqué...
Oui, il est paroxystique.
Ça a vraiment marqué la fin, pour beaucoup de gens, c'est la fin des années hippies, c'est vraiment cet événement. Quant à Tarantino, on a fait tout un film où il a retransformé, il a retravaillé l'histoire. Mais c'est aussi le cas le plus absurde, c'est-à-dire que pour Charles Manson, la chanson, particulièrement Helter Skelter, était selon lui porteuse d'un message annonçant l'apocalypse à venir et une guerre raciale.
Oui, absolument.
Je rappelle que cette chanson, à la base, était sur un toboggan géant. Charles Manson, lui, il voit la Troisième Guerre mondiale. Donc là, on est vraiment dans un cas extrême. On voit à quel point l'interprétation des uns et des autres peut parfois être délirante.
Alors, justement, sur Judas Priest, est-ce qu'il existait des messages subliminaux, ou alors est-ce qu'il faut se retrancher comme d'habitude, et c'est normal peut-être, en disant... on trouve les messages qu'on veut bien trouver.
Rob Halford l'a dit, le chanteur Judas Priest l'a dit lui-même, il a dit, si j'avais eu le pouvoir, si j'avais vraiment voulu mettre des messages subliminaux, si avec je pouvais donner des ordres à mes fans, il aurait été beaucoup plus intelligent de leur dire d'acheter encore plus de disques, d'acheter tous mes t-shirts et d'acheter 15 places de concert à chaque fois, bref, de me rendre riche. Si à aucun moment, il leur faudrait que je leur demande de supprimer. Donc, le groupe a toujours complètement renié cette théorie qui, en plus, paraît complètement absurde, parce que là encore, on parle d'écouter la musique sur un vinyle, donc il faut poser le disque vinyle sur une platine, s'amuser à le tourner à l'envers manuellement pour éventuellement chercher au milieu d'un charabia 2-3 mots qui d'un seul coup vous intimeraient de changer complètement de vie ou d'acheter un fusil, d'aller tuer tout le monde. C'est complètement absurde.
Oui. Parfois, on va très loin. Vous parliez de disques passés à l'envers. Je crois que ce sont Strawberry Fields des Beatles. On entend I buried Paul. J'ai enterré Paul. Dont on disait à l'époque que c'était un sosie. Donc, c'est vrai que tourner les disques à l'envers, ça a été une mode à cette époque-là et on y trouvait un tas de choses.
On y trouvait un tas de choses. C'est le groupe Pink Floyd, notamment.
Lui aussi.
S'est amusé à le faire et a priori, ce message, quand on réussissait à le trouver, parce qu'il fallait le trouver en plus, hein, il fallait s'amuser à parcourir tout le disque, lorsqu'on réussissait à le trouver, apparemment, mon message, c'était la voix de Roger Waters qui disait « Félicitations, vous avez réussi à découvrir le message subliminal que nous avons caché dans ce disque. »
C'est excellent.
Donc, c'était quand même la preuve que certains groupes, c'est devenu tellement un cliché du rock'n'roll que certains groupes s'en sont amusés.
Après, si on est dans la facétie amusante, c'est bien. Là, on n'est pas là-dedans, puisque avec Judas Priest, même s'il est innocent, les conséquences de ce qu'on veut bien trouver dans une chanson sont effectivement dramatiques, au-delà du fait divers. Ce procès nous dit aussi quelque chose, me semble-t-il, de la société américaine de la fin des années 80, de ses préoccupations, de son état. Êtes-vous d'accord avec ça? Mais si oui, pourquoi?
Complètement, parce que en 1990, au moment des procès, Ronald Reagan n'est plus au pouvoir, mais c'est George Bush qui a pris sa suite.
Et qui ce qui n'est pas très différent.
Ce qui n'est pas très différent, c'était quand même son ancien vice-président, donc on est toujours dans la même lignée. Et c'est toujours effectivement les années très ultra-libérale des États-Unis, où tout ce qui compte, c'est la réussite sociale. C'est l'argent, c'est le paraître, c'est l'image qu'on projette. Et l'image, une bonne image aux États-Unis, ça passe par une dentition parfaite, un brushing parfait, une grande maison et surtout une famille parfaite où rien ne dépasse. Et une appartenance et un affichage assumé d'être religieux, d'aller à l'église tous les dimanches, de surtout ne pas dire de gros mots et de regarder les bonnes choses à la télévision et tous les soirs de faire sa prière avant de se coucher. Et cet États-Unis-là, sans bien, on n'est pas encore tout à fait dans la génération X, les années grunge, on va dire ça, qui vont arriver après, notamment avec la guerre au Koweït et tout ce qui s'est passé. Mais on sent une partie de l'establishment américain sans que petit à petit sa jeunesse est en train de lui échapper. Qu'on n'est que finalement, en cette toute fin des années 80, ce rêve qu'on a vendu aux gens en disant « mais travailler plus pour gagner plus », comme on pourrait dire, tout ça a ses limites. Que finalement, cette réussite, cet argent, c'est finalement limité à un certain nombre de personnes. Et de plus en plus, cette image, elle est fendillée. Et de plus en plus, les conservateurs, plus cette image est fendillée, plus ces conservateurs ressentent le besoin de la retenir, de faire en sorte
de dire
non, mais tout est en place, tout va très bien, nous sommes parfaits, ces gens-là, ce sont eux qui ne sont pas normaux. Nous tenons, nos enfants sont propres, sont polis, ils respectent Dieu et les règles, ils ne sont pas comme ça. Et donc, il y a vraiment cette espèce de fuite en avant qui atteint un paroxysme. Et c'est vrai que nous, en France, on n'a pas connu ça, mais il fallait voir, effectivement, le phénomène des télé-évangélistes, avec des gens sur la télévision qui s'avançaient au milieu d'une allée, au milieu de fidèles, et un télé-évangéliste qui s'avançait et disait « Je t'appose la main de Dieu et tu es libéré du démon !» Et les gens qui étaient secoués de convulsions, disant « Satan me quitte !» Enfin, c'est la société du spectacle américaine. Et elle est présente, encore très, très présente, même quand il s'agit de combattre ce qu'on considère comme étant l'incarnation absolue du mal.
Alors, est-ce que de ce point de vue, le heavy metal constitue le bouc émissaire parfait ?
Oh oui, bien sûr ! Regardez, le heavy metal. Quelles sont les valeurs du heavy metal ? Surtout le heavy metal des années 80. C'est, on s'habille comme on veut, on a les cheveux longs, on porte des vêtements provocateurs. Dans nos clips, qui étaient très puissants, qui étaient très diffusés à l'époque sur MTV, donc l'imagerie était très 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 forte. On est sur des grosses motos, des voitures décapotables, souvent entourées de jeunes femmes, pas tout le temps beaucoup vêtues. On est dans des grandes, belles, grandes maisons. C'est la réussite. Le heavy metal, c'est l'exaltation d'un hédonisme total. Hors de tout, hors terrain, hors de... On n'est pas du tout dans les valeurs patrie, famille, travail. Pas du tout. On est dans... Viens t'amuser avec nous, viens faire la fête, viens au bord de la piscine, allez viens, fais comme moi, prends la voiture et va rouler le long de Sunset Boulevard et ensuite on va aller à la plage.
Genre on n'a qu'une vie quoi.
On n'a qu'une vie, profitons-en. Et puis surtout, c'est pas pour rien que toute cette culture-là, et notamment c'était à Los Angeles, c'était à la Californie, c'était le soleil 9 mois sur 12. C'était là, il fallait voir quand même la Californie des années 80, c'était le surf.
Ah bah c'était très fun, oui.
C'était le culte du corps aussi, il fallait être bronzé, il fallait être beau. Et le heavy metal participait à ça. Le heavy metal, en plus, fonctionnait très bien dans le sens où il y avait toujours ces chansons exaltantes, ce plaisir de faire la fête pour les garçons, mais tous les groupes de heavy metal aussi avaient sur chaque album une ou deux ballades pour un peu, en quelque sorte, montrer en disant « Mais regardez, on est un peu sensible quand même. Regardez, ma copine et moi, on s'est bagarré hier, j'ai écrit une chanson là-dessus. »
Ouais, mais aussi on peut être romantique, amoureux,
voilà.
Et doux.
Bon. Sous ces airs de grandeur, je suis un romantique aussi, un petit cœur qui bat.
Alors les problèmes de Judas Priest avec la justice, on les trouve aussi aujourd'hui dans le rap, à ceci près qu'il y a moins de messages subliminaux dans le rap finalement. Le rap dit les choses, clairement.
Oui, le rap dit les choses, et le rap parle beaucoup plus vrai, si je puis dire.
Parce qu'il dit les choses clairement, absolument.
C'est beaucoup plus sociétal, ça parle, et là potentiellement ça pourrait plus dérangé, mais au contraire, le rap parle beaucoup plus à la jeunesse, parce qu'il parle de son quotidien, il parle de ce qu'il voit en bas de la rue, des violences policières, des problèmes sociaux, de la difficulté de garder sa famille ensemble et tout, etc. Donc, potentiellement, on pourrait dire que le rap pourrait être plus facilement victime de ce genre d'attaque de la part de conservateurs que le métal aujourd'hui, bien sûr.
Le métal aujourd'hui, on finira avec ça. Quelle est sa santé artistique ? Qui sont les groupes de la scène métal ? Alors, il y a un très énorme groupe de métal qui va faire l'événement cette année aussi.
C'est Metallica,
bah oui.
Qui va faire deux stades de France. Mais écoutez, le métal, il se porte très bien.
Bah, c'est déjà bien, c'est un bon départ.
la meilleure, évidemment, le meilleur exemple, surtout notamment en France, qui a boudé pendant de longues années ce style musical, c'est le succès d'un festival comme l'Hellfest, qui est aujourd'hui le deuxième festival de France en termes d'affluence, derrière les Vieilles Charrues. Et c'est surtout une scène qui, sur le plan artistique, est extrêmement vivace. Il existe des centaines, des milliers de groupes. Et paradoxalement, ce qui a été la grande difficulté du métal dans les années 80 et 90, vers cette... ce manque d'accès aux médias grand public, le fait qu'il n'y ait pas de diffusion radio, aucune diffusion télévision, eh bien le métal en a fait une force. Mmh. Le métal a appris à fonctionner avec les moyens du bord, en s'adressant directement à ses fans. Il a créé ses propres réseaux de distribution, son propre rapport à son public. Et aujourd'hui, en fait, le métal, c'est aussi l'un des derniers bastions à une heure, à une époque où les gens n'achètent plus de disques. Eh bien, le public métal, lui, reste très fidèle à ses groupes et surtout reste très fidèle à ses concerts.
Donc ce n'est pas une niche, c'est un bastion. Alors on finira là-dessus. C'est
complètement.
Ça sera le mot de la fin si vous êtes d'accord.
Je suis d'accord,
bon,
tout à fait.
Bah parfait. Merci, merci infiniment Olivier Badin. Au revoir.
Merci.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'histoire de Judas Priest. À la technique, il y avait Diana Psangaret.